Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Burkina Faso, au moins une trentaine de civils ont été tués lundi dans l'attaque d'un village de l'est du pays, selon des sources sécuritaires et locales. Il y a une semaine, trois Européens ont été exécutés dans la même région. Notre correspondant sur place, Lamine Traoré, nous donnera les détails. Au Nigeria, plus d'une dizaine de personnes, dont sept soldats, ont été tuées par des combattants islamistes lors d'une attaque dans la province de Borno, dans le nord-est du pays, a-t-on appris de quatre sources sécuritaires. Les attaques de ce type se sont multipliées dans la région ces derniers mois, avec des dizaines de soldats tués et des milliers de personnes déplacées. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi proclame l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu. Eddy Issango y reviendra plus en détail. Au Congo-Brazzaville voisin, Raymond Malonga, 60 ans, directeur de l'hebdomadaire satirique Sel Piment, a été condamné lundi à 6 mois d'emprisonnement ferme et a payé une lourde amende, a déclaré à l'AFP Trésor Nzila de l'ONG OCDH. Monsieur Malonga, un critique du régime du président Denis Sassou Nguesso, a été reconnu coupable d'avoir diffamé Georgette Okemba, épouse de l'amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président congolais, l'accusant d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA du trésor public. Arrêté début février sur le lit dans une clinique où il suivait un traitement, il avait été conduit directement à la maison d'arrêt. À noter que sa condamnation coïncide avec la Journée internationale de la liberté de la presse. Le chef de la mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire au Tchad, après la prise du pouvoir par une junte militaire, a dit lundi à l'AFP que c'est d'abord aux Tchadiens et aux Tchadiennes de sortir leur pays des difficultés. Les partenaires seront là pour aider, mais a-t-il ajouté, il reviendra à eux de s'entendre politiquement. L'UA a envoyé une mission jeudi au Tchad pour déterminer si elle prendrait des sanctions contre ce pays en raison de son évolution politique depuis la mort il y a 2 semaines de son président Idriss Déby Itno. La mission doit quitter N'Djamena mercredi pour remettre dans la foulée son rapport au Conseil paix et sécurité de l'UA qui se prononcera ensuite sur d'éventuelles sanctions contre le Tchad. Le nombre de cas de COVID-19 en Inde depuis le début de la pandémie a dépassé maintenant les 20 millions, alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinaient toujours à sauver des malades malgré l'aide des autorités et de l'étranger. L'Inde a recensé plus de 222 000 morts. Le dispositif mondial COVAX, destiné aux 92 pays les plus pauvres, va disposer de 500 millions de doses du vaccin Moderna, dont les premières doses devraient être livrées au quatrième trimestre 2021, après un accord signé avec l'Alliance du vaccin. Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce, même s'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus puissantes du globe, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, dont bien entendu le COVID-19. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent ce mardi à Londres pour s'accorder sur des réponses conjointes aux menaces mondiales. Chine, Birmanie, Libye, Syrie et Russie sont à l'ordre du jour avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement le mois prochain en Angleterre. Ils évoqueront également les violences en Éthiopie, l'Iran et la Corée du Nord, la Somalie, le Sahel et les Balkans, autant de problèmes géopolitiques pressants qui sapent démocratie, liberté et droits humains, selon Londres. Le Britannique Dominic Raab et son homologue américain Anthony Blinken ont appelé tous deux à une approche unifiée. L'Afrique du Sud a été invitée à la réunion du G7. Un pont du métro aérien de Mexico s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi au moment où une rame passait dessus. La suite de nos informations. Au Burkina Faso, plus d'une dizaine de civils ont été tués dans une attaque hier dans l'est du pays. La presse évoque plusieurs dizaines de morts et le gouvernement dit que 11 terroristes présumés ont été tués. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Parmi les victimes, deux supplétifs de l'armée communément appelés VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, hier dans un hameau de culture de Kodiel, village de Antoukoura, dans la région de l'Est, a annoncé le gouverneur de la région via un communiqué. Selon le gouvernement, l'attaque a fait 20 blessés, des civils, dont 4 cas graves. 11 présumés terroristes ont été tués, toujours selon le bilan provisoire du gouvernement. En plus des blessés, les assaillants ont brûlé les concessions des villageois, saccagé le centre de santé de la localité, affirme le gouverneur dans son communiqué. D'autres sources sécuritaires et locales évoquent au moins 30 morts, qui précisent que le chef du village et 5 membres de sa famille figurent parmi les victimes. La semaine dernière, au moins 18 personnes ont été tuées, des civils, dans des attaques des villages de Sofekel, Yatako, Tao, Seitenga, dans le Sahel burkinabé. Avant cela, 3 Occidentaux, 2 Espagnols, des journalistes et le directeur d'une ONG environnementale irlandaise ont été tués sur l'axe Farangourma-Pama, dans l'est du pays. Une patrouille mixte anti-braconnage composée de militaires, de forestiers, de formateurs et de journalistes était tombée dans une embuscade. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, théâtre de violences accrues. Le point avec Eddy Issango.
L'état de siège débute le 6 mai pour une durée de 30 jours. Une administration militaire va diriger chacune de ces deux provinces. Le président Félix Tshisekedi a, dans son adresse hier à la nation, appelé les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri à prêter main forte aux nouvelles autorités. Il a invité les habitants à dénoncer les personnes suspectes. Les rebelles musulmans des ADF et de nombreux groupes armés commettent des atrocités dans ces régions. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a promis d'envoyer des troupes pour aider à renforcer la MONUSCO et à appuyer les FRDC. Un imam hostile à la violence des djihadistes a été assassiné à bout portant samedi en pleine prière dans une mosquée à Beni en ce mois de Ramadan.
Lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et plusieurs représentants, dont l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, ont rendu hommage au président tchadien Idriss Déby Itno, mort dans des combats contre les rebelles le 20 avril. Nathalie Barge.
S'adressant à l'Assemblée et en particulier à la représentante du Tchad, Aziza Baroud, M. Guterres a souligné que le président Idriss Déby Itno avait œuvré sans relâche pour la stabilité de son pays et de la sous-région et était un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Sous son leadership, le Tchad a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés partageant ses ressources, bien que très limité, a poursuivi le chef de l'ONU. Enfin, M. Guterres a dit espérer que les Tchadiens trouveront une voie consensuelle et pacifique vers l'avenir. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice américaine à l'ONU, a déclaré que le monde se souvient d'un partenaire ayant consacré sa vie à la lutte contre l'extrémisme violent. Elle a précisé que les États-Unis soutiennent les Tchadiens et appellent à un dialogue national inclusif qui devrait permettre une transition opportune vers un gouvernement démocratiquement élu. Le président tchadien disait qu'il s'en irait par la grande porte. Militaire dans l'âme, le guerrier Idriss Déby a tenu parole, a conclu Linda Thomas-Greenfield, après avoir estimé que les prochains mois ne seront pas faciles pour le pays.
En Somalie, le premier ministre Mohamed Hussein Roble convie les dirigeants des 5 États semi-autonomes à une réunion le 20 mai pour finaliser l'organisation des prochaines élections. C'est un nouveau pas vers une sortie de crise depuis que le président somalien a décidé de prolonger son mandat. Nanit Talani pour les détails.
La réunion du 20 mai doit permettre de finaliser les élections conformément à l'accord du 17 septembre 2020 entre le gouvernement et les 5 États semi-autonomes du pays, a déclaré Mohamed Ibrahim Mwalimu, le porte-parole du gouvernement somalien. L'accord prévoyait l'organisation d'élections avant la fin du mandat de Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmadjo. Ce processus n'avait pas abouti après les désaccords entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des États du Puntland et du Jubaland. Le président Farmadjo a chargé samedi son premier ministre d'organiser des élections dans les meilleurs délais pour tenter de mettre fin à la crise. Malgré l'annonce de la reprise des négociations, certains quartiers de Mogadiscio sont encore sous le contrôle de combattants proches de l'opposition.
La Minuteco, John Linden.
Le Mali dispose actuellement de réserves aurifères estimées à environ 703 tonnes selon le ministère des Mines. La production industrielle du pays a atteint un peu plus de 65 tonnes en 2020. Le Mali revendique la troisième place des producteurs d'or du continent alors que d'autres données le classent en quatrième position derrière le Soudan. Le Togo vient de lever un montant de 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA au terme de son émission d'obligations de relance du trésor de maturité 5 ans. C'est pour permettre la mobilisation de l'épargne des personnes physiques et morales pour la couverture des besoins des financements du budget de l'État togolais. Au Cameroun, Yaoussou Benoît est le nouveau directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile Nextel, filiale du groupe vietnamien Viettel. Nextel occupe le troisième rang sur les quatre opérateurs de téléphonie mobile opérant au Cameroun avec 3,2 millions d'abonnements, soit 15% du marché. En 2019, Nextel a réalisé un chiffre d'affaires de 206 millions de dollars, soit 21% du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie mobile au Cameroun.
Merci John. Et maintenant, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le président de la CAF est arrivé hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino. Patrice Motsepe entame ainsi une tournée en Afrique de l'Ouest qui le conduira aussi en Sierra Leone et au Libéria. Au pays de Didier Drogba, le Sud-Africain fera une annonce importante sur le championnat panafricain inter-école. La Fédération togolaise de football a nommé Paulo Duarte comme nouveau sélectionneur des Éperviers en remplacement du Français Claude Leroy qui a démissionné après avoir échoué à qualifier le Togo pour la prochaine CAN. Quelles sont les missions du technicien portugais? Depuis Lomé, Steven Lavon, journaliste togolais, nous donne des détails.
Sa mission immédiate, c'est bien évidemment de poursuivre la reconstruction de l'équipe nationale du Togo, profiter des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour essayer d'asseoir une équipe. Et puis, bien évidemment, puisqu'il va signer un contrat de 3 ans qui va l'amener jusqu'à la CAN 2023. Et j'imagine que l'objectif final sera de qualifier le Togo pour la CAN 2023.
Paulo Duarte est l'entraîneur du club angolais, Primeiro de Agosto. Depuis septembre 2020, il a aussi été sélectionneur du Burkina Faso de 2007 à 2012, puis du Gabon entre 2012 et 2013, avant de revenir au Burkina Faso de 2016 à 2019, où il a fini troisième à la CAN 2017 avant une non-qualification pour l'édition 2019. Paulo Duarte devra attendre août prochain pour prendre fonction en vertu d'un accord avec son club actuel. En attendant, le Togolais Jonas Koukou, comme là, dirigera donc la sélection. Match retour en demi-finale de Ligue des Champions ce soir en Europe, battu à l'aller 2-1. Le Paris Saint-Germain du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, suspendu pour un carton rouge écopé à l'aller, a laissé à Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez le statut de favori. Le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, le sait. Ça sera un match difficile.
On joue contre les meilleurs au monde, qui aussi eux, ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Faut l'attaquant, ça doit être le premier défenseur. Jusqu'à Keylor, qui nous a sauvé beaucoup de fois. C'est le sport, c'est le football. Il y a un moment pour souffrir, il y a un moment qu'on a le ballon, qu'il faut profiter pour marquer des buts. Mais c'est sûr que demain, il y a des moments où on va souffrir, mais on les fera tous ensemble.
Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, condamné à Paris dans une affaire de corruption autour du dopage en Russie, va rentrer au Sénégal après avoir versé une caution de 500 000 euros à la justice française. À 87 ans, Lamine Diack, qui a fait appel de cette condamnation, était retenu en France en raison de sa mise en examen dans une deuxième affaire portant sur des soupçons d'achat de votes dans l'attribution des Jeux Olympiques. Dans ce second dossier, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015 s'était vu confisquer son passeport dans le cadre d'un contrôle judiciaire imposé par les juges d'instruction. Mais la juge chargée des investigations a récemment levé son interdiction de quitter le territoire sous réserve que l'ancien champion verse une caution de 500 000 euros correspondant à l'amende encourue.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le fondateur de Jeune Afrique est mort. Béchir Ben Yahmed, qui a créé le journal panafricain basé à Paris, est décédé lundi à 93 ans. Avec son magazine, il a influencé et inspiré beaucoup de journalistes sur le continent. Pour un témoignage, Abdourahman Dia a joint à Dakar le conseiller du président Macky Sall et journaliste El Hadj Hamidou Kassi.
C'est, comme tout le monde en convient, un très grand éditorialiste.
Son fameux éditorial, ce que je crois.
Ce que je crois, voilà. Un grand éditorialiste dans la durée, avec une rigueur professionnelle peu commune. Une immense culture, malgré son érudition et son niveau intellectuel assez élevé, on comprenait immédiatement quels étaient les enjeux du sujet qui était traité. Il s'est distingué également en accueillant plusieurs générations de jeunes journalistes africains en particulier, qui se sont formés, qui ont acquis beaucoup de rigueur et qui l'ont fait prévaloir pour certains ailleurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, son influence a été incontestable en Afrique, parce que le magazine Jeune Afrique était considéré non seulement comme une influence, mais plutôt comme une référence, mais aussi comme un relais d'influence extrêmement efficace.
Vous parliez de cette école pour beaucoup de journalistes, en tout cas, qui constituent Jeune Afrique, mais sur le plan panafricaniste, vous êtes panafricaniste. Comment est-ce que ce journal a un peu façonné vos idées ou en tout cas vous a aidé à comprendre un peu ce qui se passait en dehors du Sénégal?
On peut ne pas être d'accord avec les contenus rédactionnels. Hein. Lorsque on lit des articles relatifs à tel ou tel pays, mais moi, ce qui me frappait, c'était la capacité de M. Béchir Ben Yahmed à aller au-delà de l'actualité pour poser les questions de fond relatives à telle ou telle conjoncture dans tel ou tel pays ou alors dans un ensemble de pays. Et il avait toujours une approche globale, une approche intégrée des choses pour expliquer, à mon avis, les événements. Et on en sortait toujours, non pas avec forcément son propre point de vue à lui, mais il nous permettait de nous faire notre propre point de vue, notre propre opinion sur tel ou tel événement.
Alors, Jeune Afrique était considéré comme un journal, un magazine panafricain, même s'il était basé à Paris. Aujourd'hui, avec l'évolution des médias, est-ce qu'il est envisageable de penser à un modèle pareil, mais plutôt en Afrique?
Moi, je crois fondamentalement que l'Afrique aujourd'hui est en état de générer ce genre de magazine. En Afrique même. Nous avions tenté l'expérience en 2015, mais faute de moyens, nous ne sommes pas allés trop loin. Mais cela, évidemment, demande juste des moyens que les journalistes eux-mêmes n'ont pas. Et malheureusement aussi, les grands groupes économiques africains n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu que constituent les médias dans le façonnement des consciences et donc forcément dans le façonnement de leur propre business pour investir dans ce secteur-là.
C'était le philosophe et journaliste El Hadj Hamidou Kassé. Le monde des médias et celui de la politique en Afrique rend hommage à Béchir Ben Yahmed. Beaucoup de journalistes africains ont fourbi leurs armes à la rédaction de Jeune Afrique à Paris. Marie-Roger Biloa fait partie de ces journalistes. Abdelrahman Dia l'a jointe dans la capitale française.
Alors d'abord, c'est une très grande émotion d'apprendre son décès. Personnellement, j'étais toujours en contact avec lui. Je suis partie en 90. Et donc, ça commence à dater. Et je lui ai souhaité, on a échangé au moment de son anniversaire le 2 avril dernier, c'est-à-dire exactement il y a un mois. J'ignorais qu'il a été à l'hôpital, il ne l'a pas signalé, je l'ignorais. Il est un pionnier, un repère, et je veux dire même le père de la presse panafricaine. On sera toujours très surpris de découvrir le nombre de journalistes évoluant sur la scène africaine, qu'ils soient africains ou non africains, qui sont passés par Jeune Afrique.
Tout à fait. Justement, il y a beaucoup de journalistes africains qui ont vécu en France où les médias français n'étaient pas accessibles, mais Jeune Afrique était là pour leur donner cette occasion de prouver leur talent.
Absolument. Beaucoup ont commencé à Jeune Afrique et ont évolué après dans France Télévisions, les grands hebdomadaires, les périodiques de la presse parisienne, etc. Et nous, je dirais que il a inventé un type de journalisme panafricain francophone. Le groupe était diversifié, il y avait même une agence de voyage, un magasin de meubles, une maison d'édition, enfin, et beaucoup d'activités de communication. Il a su identifier rapidement tout ce qui pouvait contribuer à pérenniser le groupe.
Parlez-nous un peu de votre expérience à Jeune Afrique.
Alors, moi, je suis arrivée à Jeune Afrique en provenance d'Autriche, où je travaillais pour une organisation internationale, parce que je voulais faire du journalisme. Et Ben Yamed dira toujours plus tard que je fais partie des deux journalistes, des seuls journalistes qu'il a recrutés comme ça sur papier. Il y avait Sénène Andria Mirat, paix à son âme, bagage, et moi-même. Et mes débuts ont été très difficiles parce que je voulais être journaliste, mais j'estimais que je parlais anglais, je savais taper à la machine, etc. On m'a envoyé faire de l'assistanat, voyez. Alors que des collègues à moi qui sont arrivés au même moment, qui avaient à peu près le même niveau universitaire ou de formation et d'expérience, allaient directement dans une rédaction. Et sous la tutelle d'un journaliste chevronné qui les formait. J'ai pas eu cette période. J'ai dû me battre beaucoup pour me faire accepter dans la salle de rédaction. Pour moi, c'était vraiment une école de la rigueur. C'est à Jeune Afrique que j'ai fait, je dirais, l'interview qui marquera ma carrière à jamais. J'étais la première journaliste francophone de l'espace, tout l'espace francophone africain ou en France, ou tout l'espace, à avoir une interview de Mandela après sa libération en 90.
Marie-Roger Biloa dans la capitale française.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Malgré les dangers, de nombreux ressortissants d'Afrique subsaharienne, dont certains travaillent en Tunisie, veulent tout tenter pour rejoindre l'Europe, seule perspective d'avenir selon eux. La hausse des départs de Tunisie a atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011. Yacouba Ouédraogo nous amène à la rencontre d'un groupe d'Ivoiriens migrants à Sfax, dans le centre-est de la Tunisie.
Aminata Traoré connaît bien ces eaux de la Méditerranée, au large de Sfax, pour les avoir empruntées lors d'une traversée clandestine vers l'Europe. Lorsque son embarcation et une autre ont chaviré le 9 mars, elle s'est retrouvée à l'eau avec 200 migrants, bilan 39 morts, y compris sa fille de 15 mois, sa sœur et sa nièce. Mais cette Ivoirienne veut, malgré tout, tenter à nouveau la traversée, tout comme Prista Kone, une autre Ivoirienne de 28 ans dont l'embarcation a été interceptée en 2020.
C'est mal vu de traverser la Méditerranée, mais nous nous sentons en sécurité aujourd'hui de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller l'autre côté, où on sera mieux vu, où on sera mieux traité en Europe, en Italie, en France, partout ailleurs. La Tunisie, c'est trop difficile.
Les récits des migrants ravivent la colère de leurs compatriotes entassés dans cette petite chambre où ils partagent ce jour une soupe à base de carcasses de dinde périmée et de riz. Une vie qu'ils veulent tous quitter, mais pas question de retourner en Côte d'Ivoire. Le prix du billet et la pénalité à payer pour être resté 3 ans illégalement en Tunisie est plus élevé qu'une traversée clandestine. Pour le couple Zozo Ange, 22 ans, et Inao Steve, 34 ans, c'est l'Europe ou rien.
Je cherchais un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident.
La hausse des départs de Tunisie a atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011 et se poursuit. La majorité des candidats à l'exil, tous des ressortissants d'Afrique subsaharienne, représentent 53% des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021, selon l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Oumar Koulibaly, président de l'Association des Ivoiriens, basé à Sfax, évalue à 20 000 le nombre de ressortissants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, dont 60% d'Ivoiriens.
Quand les subsahariens arrivaient ici, ce n'était pas forcément pour la traversée. Il y a beaucoup qui venaient en Tunisie pour travailler. Mais on ne leur a pas dit la vérité. Ce qu'on leur a promis, quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. Et donc, ils n'avaient plus le choix.
Un choix de rejoindre l'Europe à tout prix. En 2 mois, plusieurs naufrages au large de Sfax, principal point de départ selon l'ONU, ont fait une centaine de morts, des Ivoiriens, des Guinéens ou des Burkinabés.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les voyages de l'Inde aux États-Unis seront limités à partir de cette semaine. La nation sud-asiatique fait face à une flambée dévastatrice du nouveau coronavirus. L'administration Biden envoie de l'aide, mais certains se demandent si les États-Unis devraient faire plus. Michel Quinn de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Des scènes venues de l'Inde aux prises avec une vague meurtrière de coronavirus font le tour du monde entier. L'administration Biden réagit à la crise et envoie des fournitures telles que des équipements de protection individuelle, de l'oxygène, des kits de test, des masques et autres. Les voyages de l'Inde vers les États-Unis seront limités à partir de ce mardi 4 mai. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a parlé à la chaîne ABC.
Nous sommes préoccupés par les variants, nous sommes préoccupés par la propagation, nous sommes préoccupés par les pertes en vies humaines et par tous les effets secondaires alors que cette pandémie devient incontrôlable en Inde.
L'Inde compte plus de 19 millions de cas confirmés, plus de 215 000 décès selon le Centre de ressources sur le coronavirus de l'Université Johns Hopkins. Plus d'un tiers des Américains sont entièrement vaccinés contre le Covid-19. Certains États disent avoir suffisamment de vaccins. L'administration Biden a déclaré qu'elle va partager avec les pays qui ont besoin d'aide 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca, un vaccin qui n'a pas été approuvé aux États-Unis. Les experts en santé publique estiment que les États-Unis devraient faire ce qu'ils peuvent pour aider l'Inde et d'autres pays en difficulté. Le docteur Ashish Jha est le doyen de l'école de santé publique de l'Université Brown.
Nous devons aider l'Inde à maîtriser cela pour diverses raisons, surtout humanitaires. Il y a des problèmes géopolitiques, mais du point de vue strict de la santé publique, cette grande épidémie est également un terrain fertile pour plus de variantes.
Ron Klain, directeur de cabinet de la Maison-Blanche, a déclaré sur l'émission Face à la Nation de CBS News que les États-Unis ont envoyé à l'Inde suffisamment de matières premières pour fabriquer 20 millions de doses de la version indienne du vaccin Oxford-AstraZeneca. Certains législateurs américains, dirigés par le sénateur du Vermont Bernie Sanders, disent que l'administration devrait assouplir les règles sur les brevets afin que les pays puissent produire rapidement des versions génériques de ces vaccins, ce à quoi les firmes pharmaceutiques s'opposent, citant d'éventuels problèmes de sécurité.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.